Radio Scoopy. Radio Scoopy.
Angela Davis.
Jacques Chancel. Angela Davis, ce qui frappe chez vous au premier regard, et je l'avais déjà vu à la télévision, c'est votre sérénité. Et pourtant, vous avez été, et vous serez sans doute une combattante, l'une des plus décidées sans aucun doute. Vous avez, ou plutôt vous auriez pu mener une vie tranquille, et vous avez choisi le camp des opprimés. Vous défendez la cause des Noirs, mais aussi celle de tous les détenus politiques dans le monde. En fait, vous défendez la liberté de l'être humain. Alors, est-ce bien, pour toute une vie, le sens de votre engagement ?
Mais vous savez, j'ai participé dans la lutte, bien sûr, avant mon emprisonnement. Mais après, pendant que j'étais en prison, des milliers de personnes partout dans le monde se sont battues pour moi. J'ai trouvé qu'après ma libération, je n'avais pas de choix parce que s'il n'y avait pas ce mouvement, je serais en ce moment en prison, non pas en liberté. Alors, c'est quelque chose pour moi qui est une responsabilité très profonde.
C'est-à-dire votre liberté n'a de sens que si vous pouvez réclamer celle des autres.
Oui, exactement.
Mais vous semblez dire que le problème des Noirs n'est toujours pas réglé aux États-Unis, qu'il est loin de l'être. C'est bien vrai ?
C'est très vrai parce que si vous regardez la situation des Noirs aujourd'hui, vous trouvez que la situation est même plus pire qu'il y a 10 années à peu près. Il y a beaucoup plus de chômage. Il y a, par exemple, 60% des jeunes Noirs sont en chômage, ce qui est quelque chose d'absolument atroce. Ça veut dire qu'ils sont des victimes des drogues, le crime devient plus grand à cause de ça. Et aussi, les salaires sont plus bas. Maintenant, les salaires des Noirs sont plus bas par rapport aux travailleurs blancs qu'ils ne l'étaient il y a 10 années.
Mais vous ne pensez pas que d'un côté comme de l'autre, on n'est pas prêt de changer les choses, à la fois du côté des Blancs et du côté des Noirs?
Mais oui, je trouve qu'aux États-Unis, la plupart de la population blanche a vraiment appris ce que c'est que le racisme, a une volonté très profonde de changer les choses. Mais ce n'est pas les Blancs qui sont à l'origine du racisme aux États-Unis. À mon avis, c'est la classe qui contrôle l'économie. Et alors, ils voient qu'il est possible d'avoir plus de profits si le racisme est plus fort. Et maintenant, avec la crise économique qui est toujours pas réglée aux États-Unis, on trouve que le niveau du racisme monte très, très visiblement.
Si vous acceptez, Angela Davis, de parler de vous, c'est non pas en tant qu'individu, mais c'est parce que vous représentez une masse de gens. Lorsque vous avez écrit vos ouvrages, c'était pour témoigner. Et si cette fois-ci, vous avez accepté de participer à un film, puisque Jean-Daniel Simon a réalisé l'enchaînement, c'est parce que votre combat n'est pas terminé, que vous êtes obligé de passer par les masses médias.
Mais il faut essayer de toucher gens. Vous savez que la plupart de la population aux États-Unis ne vient pas aux meetings, ne lit pas les tracts. Mais bien sûr, nous avons des meetings très grands, mais si on veut avoir un impact vraiment très grand, il faut essayer d'utiliser l'art, il faut essayer d'utiliser le film, par exemple. Et je trouve que parfois un film ou une œuvre d'art pour toucher d'une manière beaucoup plus élémentale qu'un discours politique. Et je trouve que le film qu'a fait Jean-Daniel Simon, qui à mon avis est vraiment superbe, c'est un film sur nos luttes.
Et sur vous d'abord, mais sur vous et les luttes à travers vous. Mais donc vous êtes quand même le personnage principal de ce film.
Ah, il faut que vous voyez le film pour vous décider. Parce que, par exemple, il y a une interview qui est vraiment émouvante du révérend Ben Chavis.
C'est aujourd'hui le procès.
C'est aujourd'hui le procès, le 9 mai, oui. Et ça va durer quelques jours, je crois.
Et on peut rappeler ce qui s'est passé?
Bon, alors, en 71, il y avait des étudiants, des élèves dans l'État de Caroline du Nord, dans une ville qui s'appelle Wilmington, qui se battaient pour intégrer les écoles d'une manière juste, d'une manière pacifique. Il y avait des problèmes parce que dans cette ville, le Ku Klux Klan était très puissant, il l'est encore d'ailleurs.
Plus qu'avant ?
Oui. Mais alors, les élèves, leurs parents, sachant que le pasteur Ben Chavis avait beaucoup d'expérience en tant que leader, en tant qu'organisateur des mouvements, lui ont demandé de venir à cette ville pour mener la lutte, pour organiser cette lutte pour l'intégration. Ils ont pris une église comme quartier général et ils ont organisé des manifestations vraiment impressionnantes. Et c'était le Ku Klux Klan qui voulait que ce mouvement s'arrête. Le Ku Klux Klan est venu avec des fusils, des pistolets, et ont tiré sur l'église. On peut voir aujourd'hui des trous de balles dans l'église. Un étudiant, un élève, il a été tué, un garçon de 16 ans. Et puis après, toute la violence a duré pendant quelques jours. Et c'était quelque chose d'absolument incroyable. C'était les étudiants et le révérend Ben Chavis qui avaient demandé à la police la protection. Ils disaient, les étudiants voulaient un couvre-feu parce qu'ils ne voulaient pas que le Ku Klux Klan puisse aller partout avec leurs fusils.
Et on accuse Ben Chavis.
Bon, alors, il y avait eu un bâtiment qui a été brûlé. Et après, on a accusé Ben Chavis, 8 des étudiants et une mère de famille qui s'appelle Anne Shepherd, qui est d'ailleurs une femme blanche qui avait eu beaucoup de courage de lutter dans le Sud contre, quand on a vu le Ku Klux Klan, la terreur, et quand même elle a eu le courage de lutter ensemble avec ses sœurs et ses frères noirs. Et après, on a accusé les 10 d'incendie volontaire. Et aucun membre du Ku Klux Klan n'a été accusé.
Souhaitons à Angela Davis que les affaires s'arrangent aujourd'hui et que Ben Chavis soit complètement libéré de toutes ces vilaines affaires.
Mais vous savez, les Français qui veulent écrire des lettres peuvent le faire encore parce que ce procès va durer, je crois, jusqu'à la fin de la semaine. Alors, si on envoie une lettre au gouverneur de Caroline du Nord, il s'appelle Jim Hunt. Et la capitale de l'État de Caroline du Nord s'appelle Raleigh. Alors on peut...
James Hunt, État de Caroline.
Oui, oui, ça...
Je crois que ça peut arriver. Vous pensez, Angela Davis, qu'il faut passer parfois par la violence pour faire arriver ce que l'on souhaite? Êtes-vous passé par la violence, vous? Bon, vous avez fait de la prison, à un certain moment vous avez été accusé, on se rappelle l'histoire. Bon, il y a eu 1970, il y a eu ces trois prisonniers qui, dans la salle du tribunal, au moment de l'audience, ont reçu des armes de quelqu'un. Il y a eu un peu de mitraillage, il y a eu un juge tué, et on vous a accusé. On vous a accusé d'avoir lancé les armes alors que vous n'étiez pas là à ce moment-là, vous n'étiez même pas dans la ville. Mais enfin, vous avez fait de la prison, vous avez souffert, et votre engagement a été encore plus brutal après. Peut-être.
Oui, peut-être qu'en France, c'est peut-être un peu difficile de comprendre le fait qu'il faut réclamer le droit de se défendre aux États-Unis. Vous savez, je suis née au Sud, j'ai passé toute mon enfance.
Vous êtes née dans l'Alabama.
Dans l'Alabama, oui. Et la première chose dont je me rappelle de toute ma vie, c'est les plasticages des maisons. Et,
les explosions.
Des explosions. Et, mon père, il avait des armes parce qu'il fallait, nous avons reçu des menaces, il fallait pouvoir se défendre parce que tout le gouvernement municipal, c'était pendant un moment où George Wallace il était gouverneur. Alors, c'était la police, c'était le chef du département de police qui a provoqué, qui a organisé ces explosions. C'est qui a dit au Ku Klux Klan qu'il y a une famille noire qui a acheté une maison qui est dans la partie de la ville qui est la partie blanche. Alors, il disait à la radio, ce soir, nous allons voir du sang partout, parce que les Noirs n'ont pas le droit d'envahir nos communautés. Alors, pendant toute mon enfance, la violence était quelque chose de très quotidienne presque.
Enfin, vous avez remarquablement travaillé en classe. Enfin, vous êtes docteur en philosophie. J'ai vu que vos professeurs, vous avez eu Marcus, que d'ailleurs comme professeur, vos professeurs disaient que vous étiez l'une des élèves les plus brillants qu'ils avaient jamais rencontrés. C'est pour lutter que vous avez voulu être cette bonne élève, ensuite ce professeur, cette femme qui témoigne.
Vous savez, aux États-Unis, la situation par rapport à l'éducation pour les Noirs, c'est encore très difficile. Et je sais qu'il y a très peu de Noirs, de Portoricains, et d'ailleurs d'enfants de la classe ouvrière qui sont blancs, qui ont l'occasion d'aller à l'université. Et moi, c'était... Bon, j'ai eu de bonnes notes quand j'étais à l'école, mais il y a beaucoup de mes amis ont eu de très bonnes notes aussi, et c'était presque un accident que j'étais parmi ceux qui ont reçu des bourses, parce que je n'aurais jamais pu aller à l'université sans
une bourse. Que faisait votre père ?
Mon père, il a une station service et ma mère est institutrice.
Vous étiez déjà privilégié.
Nous avions de quoi manger, nous avions quelques vêtements, mais nous avons pu survivre. Mes parents n'avaient pas assez d'argent pour m'envoyer à l'université parce que, vous savez, ça coûtait pendant ce temps-là 3 000 $ dans l'année pour envoyer quelqu'un à l'université. Alors j'ai reçu une bourse et depuis que j'étais à l'université, j'ai compris que ce n'était pas à cause de moi que j'étais là, c'était à cause des luttes qu'ont menées mon peuple, nos alliés blancs. Et j'avais alors une responsabilité. Alors c'est-à-dire que quand j'étais à l'université, les choses que j'ai apprises, ce n'était pas seulement pour moi, c'était pour tous ceux qui m'avaient lutté pour moi. C'était pour la cause de la libération.
Mais Angela Davis, aujourd'hui, vous avez un métier ?
Oui, j'enseigne toujours dans l'université. Pendant cette année, non, parce que je suis en train de finir un livre. Mais l'année dernière, j'ai enseigné à l'université de Stanford et à une université à Los Angeles.
La philosophie ?
Oui, la philosophie, la science politique.
Bon, je sais bien, vos livres sont le reflet de la mission que vous êtes imposée, mais un jour, vous pourrez écrire un livre qui sera un livre d'imagination. Un jour, vous aurez l'occasion d'oublier tout ce qui fait le sens de votre lutte aujourd'hui.
Bon, j'aimerais bien que le jour vienne où nous avons atteint tous nos buts. Mais en ce moment, aux États-Unis, vous savez, il faut, même plus qu'avant, même plus que pendant le temps que j'étais en prison, il faut vraiment un mouvement de masse. Parce qu'on ne lit pas beaucoup du racisme aux États-Unis maintenant. On ne lit pas beaucoup des prisonniers politiques parce qu'il existe presque une conspiration, je crois.
Conspiration du silence.
Oui, de conspiration de silence. Et c'est pourquoi il faut que nous consacrons toutes nos énergies maintenant. C'est pas quelque chose qui est très facile, parce que j'ai l'envie de faire des choses qui me plaisent. J'ai envie parfois d'aller danser, j'ai envie d'écrire, de lire.
De vivre.
Mais la lutte, c'est aussi la vie. Et c'est quelque chose que je crois, il est très important de reconnaître, nous qui sommes des militants politiques, nous sommes des êtres humains. Nous aimons...
Et vous vivez comme les autres.
Exactement. Nous ne sommes pas des créatures bizarres. Alors il faut, à travers la lutte, vivre aussi.
Mais Angela Davis, lorsque vous dites que le Ku Klux Klan est aussi puissant qu'avant, si ce n'est plus, on est ici en Occident quelque peu étonné. Parce qu'il y a encore ce racisme dans les bus où on interdit aux Noirs de s'asseoir. Non.
Pas maintenant, mais...
Vous semblez le dire. J'ai lu un jour un article de vous où vous répondiez à une interview et il paraissait que les choses n'avaient pas changé.
Bon, il y a eu... Bien sûr, des changements.
Et on n'y croit pas, nous, on ne peut pas
mais
croire.
Mais des changements superficiels. C'est vrai, quand je vais chez moi maintenant, il ne faut pas aller derrière dans le bus. C'est vrai que je peux aller dans un restaurant maintenant. Pendant que j'étais enfant, les Noirs n'avaient pas le droit de manger, d'aller aux toilettes, de boire de l'eau d'une fontaine, s'il n'y avait pas une affiche qui disait « Noir » là-dessus. C'était comme l'apartheid. Alors, à cause du mouvement mené par Martin Luther King, ça n'existe plus. Mais je trouve que la base du racisme, c'est l'économie. Et si on voit que la situation économique ne s'est pas améliorée, même pire maintenant, il y a plus de pauvreté parmi les Noirs, plus de chômage, plus de misère. Ça, c'est le racisme. Et le fait que partout dans les États-Unis maintenant, les organisations... réactionnaires, racistes, comme le Ku Klux Klan, sont en train de surgir. Vous avez peut-être vu des images de ce qui s'est passé à Boston, le Ku Klux Klan qui a organisé toute cette violence.
On ne pourrait pas penser que ce sont quelques fous seulement, plutôt que quelque chose de très motivé, de très organisé.
Mais bon, je ne crois pas que le Ku Klux Klan soit notre ennemi, parce qu'ils n'ont pas de pouvoir.
Oui, bien sûr.
Mais le fait que le gouvernement permet cette résurgence du Ku Klux Klan, le fait qu'on donne, même dans les journaux, on
c'est
a
permissif,
des articles,
oui.
Et c'est maintenant un peu, beaucoup plus respectable. On parle par exemple de la tête du chef de Ku Klux Klan, il s'appelle David Duke, il est jeune, il est beau, il s'habille bien, il est allé à l'université, alors partout on voit son image. On dit qu'il est sexy.
Vous pourriez le rencontrer, un homme comme celui-là, et engager, même pas le combat, la discussion. Non, pas possible.
Mais ils sont tellement violents. Ils ne veulent rien. Vous savez, c'est pas seulement une question de dire que nous ne devons pas laisser entrer les Noirs dans nos écoles. Ils commis des actes violents pendant l'été passé, par exemple à Chicago. Il y a eu des attaques contre les Noirs qui ont continué pendant tout l'été. Il y avait, par exemple, un incident où un Noir, qui était d'ailleurs un agent de police, un dimanche... Il était avec son petit garçon de 8 ans. Ils étaient à l'église et ils revenaient de l'église dans leur voiture. Bon, le Ku Klux Klan est venu dans la voiture, a détruit la voiture, l'a attaqué. Il a été gravement blessé. Le garçon a été blessé aussi. Et c'était seulement parce qu'il était des Noirs. Il était dans la voiture, dans une section de cette ville qui était blanche. Et quand on parle de la respectabilité du Ku Klux Klan dans la média, alors c'est une justification des actes violents comme ça.
Mais Angela Davis, il y a chez vous une volonté d'être noire, et rien que noire.
Qu'est-ce que vous voulez dire par cela?
Vous assumez, vous avez décidé une fois pour toutes que cette couleur affirmait une différence.
Mais qui vous a dit cela?
Non, je pose la question.
Parce que, bien sûr, comme noire, je me sens opprimée parce que les noirs aux États-Unis sont, bon, notre histoire date de l'esclavage. Il y a une sens d'identité comme un peuple. Et nous avons, comme noirs, une lutte de libération noire. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas une lutte qui s'inscrit avec les autres luttes, parce que c'est une lutte qui est liée à la libération des autres races et nationalités opprimées, les Portoricains, des Chicanos, des Indiens. Et c'est une lutte aussi qui est très liée à la lutte de la majorité des Blancs aux États-Unis. Si vous m'avez écouté, quand je parle toujours de nos luttes, je parle de la lutte des Noirs, la lutte des Portoricains, Chicanos, la lutte de la classe ouvrière en général, de toutes couleurs.
Mais il y a, et vous le savez bien, Angela Davis, une lutte qu'il faut poursuivre de par le monde. Bon, c'est vrai, on parle du Chili, on parle des Indiens, on parle des Noirs, mais il y a également les camps en URSS, et il y a le Cambodge, et on en parle moins. Pourquoi ?
Qui en parle moins ?
Tout le monde. C'est encore une loi du silence, sauf depuis quelque temps.
Et aussi, il y a l'Afrique du
l'Afrique.
Sud.
L'Afrique du Sud, on en parle.
Il y a l'Iran, par exemple, où il y a 100 000 détenus politiques. Mais c'est vrai. Moi, quand, par exemple, le président Carter a fait de grandes déclarations sur les droits humains, je me demandais pourquoi est-ce qu'il n'a rien dit de Chili ? Pourquoi est-ce qu'il n'a rien dit de l'Afrique du Sud ? Bon, il n'a rien dit de son propre pays, bien sûr, et la violation des droits humains dans notre pays. Mais je trouve que c'est parce que nous sommes en train, dans l'histoire, d'aller à une autre époque, une époque où de plus en plus les peuples du monde ne veulent pas être dominés par des coopérations. Angola, Mozambique, Chili, c'était la lutte en Chili, c'était parce que le peuple de Chili a dit à travers les voies démocratiques qu'ils voulaient avoir les fruits de leur propre travail. Ils voulaient avoir leur propre cuivre. Ils voulaient utiliser ces choses-là pour créer une vie meilleure pour leurs enfants. Et c'était les corporations des États-Unis, le Pentagon, Kissinger, sont décidés de donner appui aux fascistes en Chili pour supprimer cette marche de l'histoire.
Angela Davis, est-ce que vous seriez favorable au grand amalgame des hommes et des femmes dans le monde de toutes les couleurs ? Lorsqu'un noir épouse une blanche, lorsqu'un blanc épouse une noire, vous vous posez la question dans quelle dimension ?
Je crois qu'il faut que nous ayons tous la possibilité d'être des humains et d'avoir des rapports personnels, politiques, émotionnels, toutes sortes de rapports avec qui que ce soit. Et j'ai parlé de nos luttes aux États-Unis, notre lutte pour libérer Ben Chavez, libérer Joanne Chesimard.
Enfin, libérer tous les détenus politiques,
oui, et contre la brutalité policière, etc. Dans notre organisation qui s'appelle l'Alliance Nationale contre la répression raciste et politique. Nous sommes toutes les couleurs. Nous sommes des Blancs, des Noirs, des Portoricains. Et nous travaillons toujours ensemble.
Mais je vais plus loin que le travail. Je vais dans la vie, parce que vous savez, tous les grands professeurs disent que le métissage est un phénomène.
Non,
heureux.
Mais j'allais dire aussi, c'est ce qui est vraiment impressionnant. Je trouve qu'à travers notre travail politique, nous établissons des rapports beaucoup plus profonds, beaucoup plus proches. Parce que moi, par exemple, je connaissais quelques Indiens, je connaissais la lutte des Indiens, mais c'était à travers les contacts que j'ai eus dans l'Alliance que j'ai pu avoir l'occasion de participer dans les événements culturels et de vivre avec. Je suis allée à Wounded Knee, vous vous rappelez, pendant. Et je crois que pour nous maintenant, c'est surtout dans la lutte où on apprend à se connaître, à apprécier les gens de toutes les couleurs et à trouver des rapports personnels aussi.
Vous pourriez vivre ailleurs, c'est-à-dire déserter mais définitivement les États-Unis, ou bien c'est là qu'est votre combat, c'est votre territoire.
Le combat est là. Et j'aime le Cuba, c'est un pays très très beau et j'ai écrit d'ailleurs dans mon autobiographie que quand le FBI me cherchait, j'avais bien sûr l'envie d'aller là. Parce que, à mon avis, c'est le plus beau pays du monde. Mais la lutte, pour nous, est aux États-Unis. Nous avons aussi des responsabilités envers tout le monde. Il y a, dans le mouvement noir, une tendance qui est maintenant beaucoup plus petite qu'avant, qui une tendance de retour en Afrique. Mais si nous, comme Noirs, nous intéressons bien aux luttes de libération en Afrique, ce qu'il faut faire, c'est de lutter aux États-Unis, parce que c'est aux États-Unis où on trouve les racines de l'oppression qui se déroule en Afrique.
Mais Angela Davy, soyons tout à fait précis. Vous souhaiteriez avoir une nation noire ?
Notre pays, notre nation, c'est un pays multinational, multiracial. Et c'est ça que nous affirmons toujours, toujours. Il y a bien sûr ceux qui disent qu'il faut avoir un panafricanisme, mais ça n'a pas de sens maintenant, bien sûr. Mes ancêtres venaient d'Afrique, c'est vrai. Mais l'expérience historique que j'ai eue, l'expérience culturelle, c'est aux États-Unis.
Et c'est aux États-Unis que vous voulez faire votre pays.
Oui, bien sûr.
Votre pays est là. Et tout à l'heure, on parlait d'humiliation.
C'est pourquoi nous luttons tellement fortement. C'est parce que j'aime beaucoup mon pays, j'aime les États-Unis, le peuple des États-Unis, le peuple de toutes les couleurs.
Tout à l'heure, Angela Davis, nous parlions d'humiliation, nous parlions de mépris, mais nous sommes convenus de croire que les travailleurs, qu'ils soient algériens, tunisiens ou noirs ou malgaches, sont souvent humiliés par ceux dont on pourrait croire qu'ils sont des amis, c'est-à-dire par les plus humbles. Comment peut-on expliquer cela ?
Oui, c'est une question très intéressante parce qu'aux États-Unis, on trouve que ce sont surtout des blancs de la classe ouvrière qui deviennent membres du Ku Klux Klan. Mais je crois que ce n'est pas leur faute. C'est la propagande raciste, c'est la démagogie raciste.
Démagogie. Vous parlez
raciste.
Très bien le français, je vous le dis tout de suite.
Non, il y a tellement longtemps que j'ai parlé français, c'est difficile. Mais par exemple... si vous vous demandez pourquoi maintenant le Ku Klux Klan est en train de croître en tant que des adhérents, c'est parce que dans le cadre d'une situation économique mauvaise où il y a de plus en plus des chômeurs blancs, dans une situation où une famille blanche qui il y a 5 ans pouvait s'attendre à acheter une maison, une voiture, des choses comme ça. Et maintenant, ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Ils se demandent pourquoi. Qu'est-ce que nous est arrivé? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, nous n'avons plus les moyens de vivre comme il faut? Alors, nous savons que c'est parce que, à cause de la crise économique, ce sont les corporations qui essayent d'avoir plus de profits. Mais quelqu'un qui essaye d'organiser le Ku Klux Klan dira à cette famille, mais si vous voulez savoir la raison pourquoi vous êtes dans cette situation mauvaise maintenant, c'est à cause des Noirs. C'est parce que les Noirs réclament vos travails. C'est parce que les Noirs disent qu'il faut que nous... Bon, alors, elle se demande pourquoi. C'est une solution. C'est une raison. Vous savez,
c'est là le vrai racisme, c'est la préparation.
Oui, c'est la même chose qui est arrivée en Allemagne pendant. C'était la tactique
nazie
de dire que les Juifs, c'était l'origine de toute la misère de la classe ouvrière.
C'est-à-dire mobiliser la peur des gens.
Oui. Et ici en France, j'imagine qu'il y a une tendance aussi de dire que le chômage, c'est parce qu'il y a des travailleurs émigrés qui en ont. Nos travaux.
Et qui prennent le pain des autres.
Oui, oui, c'est ça.
Mais vous dites, vous, Angela Davis, que c'est un crime d'être à la fois et communiste et noir. Or, vous êtes noir et vous êtes communiste. Alors, vous êtes une criminelle, mais c'est vous qui le dites. Hein.
Et j'ai dit femme aussi.
Et femme, ah oui, ça, c'est vrai. Et là, vous êtes féministe.
J'ai dit... pourquoi vous me regardez comme ça?
Non, parce que vous m'avez dit tout de suite femme. Hein.
Non, parce que je crois
comme
que...
si le combat de la femme passait même avant les autres combats. Parce que lorsque vous parlez de la libération des Noirs, vous parlez souvent de la libération des femmes noires.
Je parle de la libération de tous les opprimés. Et je crois que c'est une lutte qui doit... ce sont des luttes qui doivent exister simultanément. On ne peut pas dire que la lutte pour la libération des Noirs est plus importante que la lutte pour de la libération de toute la classe, de tous les travailleurs, du peuple aux États-Unis, parce que nous sommes partie du peuple, des peuples des États-Unis. Il n'est pas possible de parler d'une lutte pour la libération des femmes qui est séparée, qui est autonome. Et bon, il y a des tendances dans le mouvement féministe qui ne voient que la lutte pour la libération des femmes. Et moi, je ne crois pas qu'on puisse le situer comme ça.
Pourtant, la société noire, peut-être pas maintenant, mais à un certain moment de son existence, était une société matriarcale. Je crois que même à Harlem, 20% des familles avaient une mère, femme à leur tête.
Parlons alors de la situation des femmes noires aux États-Unis, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, bien sûr, parce que je suis femme noire, mais aussi parce que je vois maintenant il y a beaucoup de femmes noires en prison par rapport à la crise économique. Ce sont des femmes noires qui sont les victimes les plus sévères parce qu'il n'y a plus de chômage. Les femmes noires n'ont pas beaucoup de chances de trouver du travail qui a un sens. Bon, vous me demandez pourquoi... Presque un tiers des familles noires sont des familles avec un seul parent, une mère.
Une mère, oui. Parce que peut-être le père n'a pas de travail et qu'il est déconsidéré.
Mais vous avez raison, il y a l'assistance publique, par exemple. Il y a beaucoup de femmes noires qui reçoivent l'assistance publique parce qu'il n'y a pas de travail pour elles, il le faut. Mais il y a dans beaucoup d'États des lois qui disent qu'une femme ne peut pas recevoir l'assistance publique si le mari est là. Il ne faut pas qu'un homme soit à la maison. Alors ça veut dire que si le mari est en chômage et si le mari veut que ses enfants aient de quoi manger, des vêtements, il faut qu'il s'en aille. C'est la réalité. Mais aussi la situation des familles noires a des racines, bien sûr, dans l'esclavage, où on a systématiquement détruit la famille. C'est quelque chose qui existe maintenant. Alors, ça ne veut pas dire que la communauté noire, c'est une communauté matriarcale.
Oui, mais quand même, la responsabilité de la mère est grande parce que, vous l'avez expliqué vous-même, vous disiez qu'il fallait que les enfants sortent de la prudence et de la peur, parce que combien de fois on disait à un enfant, sois sage, sois un bon petit, ce que l'on dit d'ailleurs dans tous les pays du monde. Hein. Et même, il y a cette phrase que j'ai relevée de George Jackson, qui affirmait, ma mère a essayé de faire de moi un lâche. Et je ne pense pas que ce soit tout à fait la chose. Elle n'a pas essayé de faire de son fils un lâche, mais elle l'a peut-être trop aimé.
Mais George, après un certain temps, il a pensait, de ce qu'il disait de sa mère. Il a vu qu'à un certain point de vue, il a été victime de la propagande qui essaye de diviser les femmes et les hommes. Mais dans l'histoire des États-Unis, on trouve que la femme noire a joué un rôle très important. Et ça, je crois, c'est parce que pendant que les femmes blanches ne pouvaient pas travailler, parce que la femme, jusqu'à un certain point, la plupart de femmes étaient à la maison avec les enfants. Les femmes noires, pendant l'esclavage, travaillaient, même s'il fallait soigner les enfants, à faire la cuisine. Les femmes noires ont travaillé à côté des hommes pour les maîtres des plantations. Donc, on a recueilli du coton et des choses qui étaient très difficiles. Après l'esclavage, il fallait aussi que la femme noire travaille. La plupart du temps, c'était comme domestique, c'était comme ça. Mais quand même, je trouve que la femme noire a eu une certaine indépendance parce qu'il fallait travailler. Et vous trouvez, par exemple, qu'en tant que la lutte pour la libération noire, il y a des sojourns, pendant l'esclavage, il y avait Harriet Tubman, Sojourner Truth, après ce qui a déclenché tout le mouvement pour les droits civiques, c'était le fait qu'une femme noire s'est refusée de s'asseoir derrière. Et puis, ce qui n'est pas très connu, c'était un groupe de femmes noires qui avait dit aux pasteurs, aux gens dans la communauté, qu'il faut organiser un mouvement. C'était elle qui avait fait l'appel. Et puis c'était Martin Luther King qui est devenu le porte-parole pour ce mouvement.
Alors il y a également votre position, Angela Davis. Vous avez lancé un défi, vous avez imposé un langage nouveau, vous êtes jeune, mais dans quelques années vous le serez moins. Y a-t-il une deuxième Angela Davis quelque part qui va prendre le relais?
Bon,
pour mener le combat comme vous le menez, il faut avoir de l'obstination et de l'enthousiasme. On ne l'a pas toute la vie.
Mais je trouve que, vous savez, c'est très difficile là, parce que nous avons parlé du cas de Pasteur Ben Chavis. Vous savez, nous luttons depuis ma libération, depuis 72 pour libérer les 10 de Wilmington. Il y avait des moments où qui était très, très décourageant parce que nous essayons, nous organisons des manifestations, des réunions. Puis il semble qu'il n'y a pas de résultat. Mais il faut trouver l'énergie, les efforts pour continuer parce que nous savons que nous sommes leur seul espoir. Comme je savais quand j'étais en prison que le mouvement, c'était mon seul espoir. Alors on continue. Et maintenant, nous sommes dans une situation où je suis sûre qu'ils vont être libérés. Et on peut voir les fruits de tout le travail que nous avons fait pendant 5 années. Alors quand quelque chose comme ça arrive, ça donne
de l'enthousiasme,
l'inspiration, de continuer.
Êtes-vous agacée, Angela Davis, par ce que vous êtes devenue, c'est-à-dire une personnalité, à un certain moment, une passionnariat? Vous avez écrit, maintenant il y a ce film de Jean-Daniel Simon. Je vous rappelle d'ailleurs que Jean-Daniel Simon est un metteur en scène français. Bon, la fille d'en face, Adélaïde, il a travaillé beaucoup pour la télévision. Pourquoi avez-vous accepté de travailler avec un Français? Vous auriez fait ce film avec un Américain?
J'ai pensé, j'ai réfléchi beaucoup là-dessus. Et j'ai cru, je crois encore, après avoir vu le film, que la perspective d'un Français, qui est bien sûr en solidarité avec nos luttes, mais qui voit nos luttes avec des yeux nouveaux, qui voit peut-être des choses que nous ne voyons plus parce que nous sommes...
Qui n'est pas partisan comme vous l'êtes.
Je crois qu'il est très partisan de la lutte pour la liberté. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne vit pas la lutte comme nous le vivons. Et parfois...
Il n'est pas noir.
Il n'est pas noir non plus, c'est vrai. Mais notre lutte, ce n'est pas seulement la lutte pour les Noirs, comme j'ai dit. Comme il faut constater.
Oui, mais à un certain moment, Angela Davis, avez-vous pensé à faire réaliser ce film par un Noir?
Mais c'était,
pour que celui-ci épouse véritablement votre cause. Parce que c'est un choix.
C'était d'ailleurs Jean-Daniel Simon qui m'avait proposé l'idée de faire. C'était lui qui a eu...
L'idée est venue de lui, oui.
L'idée, et comme j'ai dit plusieurs fois, il y avait des réalisateurs aux États-Unis qui nous avaient proposé de faire un film, et nous ne voulions pas faire n'importe quel film. Et vous savez, il faut, pour faire un film, ce n'est pas la même chose qu'écrire un discours politique. Il faut... c'est un produit de l'imagination, tout d'abord. Même un film qui est documentaire, comme celui-là.
Avec des épisodes comme les vôtres qui sont quand même vrais.
Mais c'est, oui, c'est
vrai. Il n'y a plus d'imagination, là.
Mais ce que je veux dire, c'est quand on se décide qu'est-ce qu'il faut tourner... comment est-ce qu'on va monter le film? On fait un choix. Alors, on choisit quels sont les...
Enfin, il vous a suivi. Il vous a...
On pouvait faire un film.
Il a assisté à vos meetings.
On peut aller à un meeting et laisser le camarade tourner pendant tout le meeting. Alors, c'est un film, oui, mais ce n'est pas un film qui va vraiment avoir un impact. Et je trouve que c'est à travers des œuvres d'art
qu'on explique une civilisation.
Qu'on explique notre cause d'une façon beaucoup plus fondamentale que travers un discours politique. Il y a bien sûr beaucoup de personnes qui vont voir ce film parce que c'est un film qui ne viendrait pas maintenant à une réunion.
Et parce que vous êtes également Angela Davis.
Peut-être.
Donc il y a une conjugaison des éléments. Parce que c'est plus qu'une aventure, ce film. Je crois savoir que c'est une vie. Et cette vie, c'est la vôtre pour être en parallèle avec les autres.
Et c'est la vie des autres aussi. C'est la vie du pasteur Bencheve. C'est la vie, par exemple, de Fleetwood Drumgo. Il y a des scènes très émouvantes dans le film. Il était en prison pendant 14 ans. Il était un des frères de Soledad. Et puis, quand George Jackson a été assassiné, il a été accusé avec les six de Saint-Quentin. Alors, au mois d'août, il est sorti. Finalement, c'était une autre victoire. Nous avons des victoires, bien sûr, dans notre lutte. C'est pourquoi nous continuons.
Bon, Angela Davis, on a parlé de la société, de la civilisation. Mais quel est le grand ennemi pour vous? C'est le mal ou c'est le système?
Je trouve qu'il faut dire, il faut savoir qui est son ennemi. Et ça, c'est le problème du racisme. Le racisme...
On ne le choisit pas, hein, l'ennemi. Il vient tout seul.
Oui, mais s'il y a quelque chose comme le racisme, on n'arrive plus à voir qui est l'ennemi. Qu'est-ce que c'est que l'ennemi? Je trouve que l'ennemi, bien simplement, c'est... C'est le capitalisme, c'est le système, parce que c'est le système capitaliste qui profite du racisme. Ce n'est pas les blancs qui sont peut-être, qui ont des idées, des attitudes racistes, les blancs qui travaillent. Ce ne sont pas eux qui sont à l'origine du racisme. Ils sont victimes aussi d'un système qui a besoin du racisme pour ses possibilités de dominer toute la population.
Angela Davis, où seriez-vous tout à fait libre d'être complètement libre? Il y a un pays où vous pourriez affirmer votre liberté parce que vous semblez dire que dans tous les pays du monde...
J'essaie d'affirmer, nous essayons tous d'affirmer notre désir de voir l'épanouissement des libertés aux États-Unis. C'est ça qui est important. Notre lutte est là, notre histoire est là, notre avenir est là. Et il faut lutter pour les droits démocratiques, les droits humains. Il faut lutter contre l'injustice économique. Il faut lutter contre l'oppression des femmes, l'oppression de toutes les minorités aux États-Unis.
Mais estimez-vous que tout le monde est raciste, d'une certaine manière? Pas seulement pas, racisme non, de couleur, que, non, racisme, le racisme non, va dans
que
tous les sens.
Pour moi, le racisme, c'est quelque chose qui est devenu partie de l'histoire avec le capitalisme. Je crois qu'il faut dire ça, parce que le racisme n'est pas quelque chose... Je vais vous raconter une histoire. Ouais. Une histoire sur une anecdote, ma petite nièce, qui avait 3 ans quand... sa mère a essayé de lui expliquer ce que c'était d'être noir. Et bon, alors elle n'a pas la peau très foncée. Il a dit, mais non, je ne suis pas noire, je suis brune. Ma peau est brune. Elle n'arrivait pas oui. à comprendre. Bon, ma sœur, elle croyait, si elle disait qu'elle était noire à l'intérieur, elle a dit, oui, c'est vrai, ta peau est brune, mais à l'intérieur, tu es noire. Alors elle a vu... un garçon blanc avec des yeux bleus, avec des cheveux blancs. Et elle a dit, il est blanc et sa peau est blanche, mais à l'intérieur, il est noir. Parce qu'elle n'arrivait oui. pas à comprendre qu'il y avait cette différence. Et c'est quelque chose qui est appris, qui est... c'est à l'influence de la propagande et l'éducation, les institutions, on crée des attitudes.
Je crois que bientôt racistes. On comprendra quand même, je ne sais pas dans combien de temps, que ce sont ces différences qui font la beauté des civilisations. Heureusement qu'il y a toutes ces différences.
Oui, heureusement, parce que oui, aux États-Unis, heureusement, il y a toutes ces différences culturelles, mais ça ne veut pas dire que, par exemple, la musique noire est très, très belle. Il y avait un temps où, si à la radio, il fallait écouter une station noire pour entendre la musique noire. Et maintenant, avec l'évolution, les luttes contre le racisme, la musique noire est devenue partie de la culture des États-Unis. On peut maintenant, à la radio, on peut entendre à un moment la musique noire et puis un groupe blanc. Et puis, et c'est ça, il faut pouvoir participer aux cultures.
Je ne sais pas si, Angela Davis, si vous vous rappelez ce poème d'Eva Forest, enfin, l'espagnol, c'était « La nuit n'est plus l'ennemi ». Et le jour est complètement à nous. Alors, la nuit, elle est à vous maintenant. Vous devez encore combattre. Vous pensez que vous pouvez affirmer votre optimisme pour ce qui est l'avenir?
Ah oui, il faut. Mais c'est l'avenir, c'est à nous. Et je suis...
Dans combien de temps vous pourrez écrire un livre d'imagination? C'est-à-dire que tout sera fini à ce moment-là. Dans combien de temps?
Bon, ce que je veux vraiment faire, c'est de t'enseigner la philosophie. Bon, si vous me posez la question, oui. Dans combien de temps vous croyez que vous pouvez consacrer beaucoup de temps à la philosophie bon. Mais je crois que nous avons de plus en plus de victoires. Et parfois, il y a des changements abrupts. On croit que la lutte va durer pendant des années, et dans quelques semaines, quelques mois, il y a des changements, des événements. Aux États-Unis, par exemple, l'affaire Watergate a tout à fait changé les attitudes politiques de la population. Et récemment, si nous parlons de nos succès dans la lutte contre le racisme aux États-Unis, il y a eu cette émission qui s'appelle Roots Racine, qui était sur l'esclavage. C'est un livre qui a été écrit par Alex Haley. Et je crois que les Français vont avoir l'opportunité de voir cette série d'émissions ici. Et c'était la première fois dans l'histoire des États-Unis où les Blancs et aussi les Noirs ont vu d'une manière très concrète ce que c'était que l'esclavage, ce que c'était que le passage d'Afrique aux États-Unis dans les bateaux d'esclavage. C'était les émissions, c'était l'émission la plus regardée dans toute l'histoire de la télévision. Et les grandes sociétés de télévision, ils ont été tellement choqués parce qu'ils se demandaient comment est-ce que les Blancs peuvent s'intéresser à la situation des Noirs. Mais c'était quelque chose qui est devenu un tel phénomène. On a parlé pendant toute une semaine que de ça. Dans les fabriques, il y avait des restaurants qui se sont fermés parce que tout le monde voyait à l'écran l'histoire des Noirs aux États-Unis. Et c'est quelque chose qui me donne beaucoup de courage.
Alors Angela Davis, quelle femme voulez-vous être maintenant?
Je veux être une femme qui est dans la situation de faire ce qu'il faut pour que la lutte continue.
Toujours la lutte, hein, le mot revient sans arrêt. Hein.
Mais
je croyais que vous aviez oublié un peu le mot pour revenir à vous.
Mais je vous avais déjà dit, pour nous, la lutte, c'est notre vie. Et nous devons trouver notre vie à travers notre vie, notre humanité, à travers la lutte. Parce que si je me disais, j'aime bien faire des choses. Parce que j'ai beaucoup de passion. J'aime le sport, j'aime la danse. Pourquoi j'aime la musique, j'aime aller au concert. Et si je me suis dit que je voulais seulement faire ça, ce sera vraiment une trahison. Comment est-ce que je peux dire ça quand je sais que pendant que j'étais en prison, il y a des gens partout qui ont fait des sacrifices énormes, des gens que je ne connais même pas maintenant pour moi, pour ma lutte. Alors, je ne le vois pas comme quelque chose que je ne veux pas faire, parce que nous pouvons, dans notre lutte, nous pouvons rire, nous pouvons danser. Par exemple, nous essayons de trouver notre façon de nous détendre à l'intérieur de nos luttes. Si nous avons besoin de l'argent pour écrire ou pour faire quelque chose pour Ben et les Wilmington 10, nous disons alors nous allons avoir une surprise party. Et bien sûr, beaucoup de monde viendra. Et nous dansons, toute la nuit. Et puis, avant que tout le monde parte, nous disons quelque chose sur la lutte. Et nous faisons un appel pour l'argent, pour d'assistance. Et puis nous continuons à danser. C'est une façon d'intégrer.
Enfin, c'est l'enchaînement, quoi. C'est l'enchaînement
c'est
de votre vie.
C'est vrai.
Angela Davis, je vous remercie. Je crois qu'il faudrait demander au monde entier de libérer tous les détenus politiques. Mais je dis bien au monde entier. Je suis heureux de vous avoir accueilli. J'irai vous revoir un de ces soirs sur le grand écran, pardon, avec Jean-Daniel Simon, je ne sais plus, sur le grand écran pour voir le film de Jean-Daniel Simon, l'enchaînement. Merci Angela Davis.
Et merci beaucoup.
Et puis bonne chance.
Merci beaucoup.
Pour Ben Chavis ce soir. Merci. Demain, notre rendez-vous, ça n'a pas été trop dur, Angela Davis, de parler pendant une heure en français. Chapeau, hein? Vous parlez très bien le français.
Ah, mais c'est un peu difficile.
Vous parlez quelles autres langues encore? L'anglais, bien évidemment, disons l'américain. L'espagnol un peu, non?
Un peu, oui, je peux comprendre l'espagnol.
Le français, c'est parfait. Alors demain, un autre rendez-vous, Radioscopie Jacques Chancel, demain, Françoise Daubonne, un écrivain. À demain, bonsoir.